voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde. Ce samedi, nous sommes à Amiens au Festival international du film d'Amiens, une manifestation qui est connue entre autres pour son tropisme africain et qui rend hommage cette année à un immense cinéaste du Burkina Faso, Idrissa Ouédraogo, disparu en février dernier à l'orée de ses 65 ans. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Idrissa Ouédraogo, c'est une quarantaine de films, courts, longs, documentaires, fictions, séries. C'est un cinéaste qui a touché à tous les genres, la tragédie, la fable, le film noir, le fantastique, le western. Un grand habitué du FESPACO, du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, mais aussi du Festival de Cannes, où il avait triomphé, entre autres, en 90 avec Tilaï, qui avait obtenu le grand prix du jury.
Beaucoup de cinéastes en Afrique, le cinéma constitue pour eux une arme pour le développement simplement, et que c'est une position tellement privilégiée d'être la conscience des populations, de nos peuples. Il faut faire éclater les choses, il faut qu'on soit libre dans nos têtes pour créer. Il y a toujours une censure, ce n'est pas africain, mais ça ne veut rien dire. Parce que moi, quand je fais un sujet, quand j'ai envie d'écrire, c'est moi d'abord, c'est pas l'Afrique qui me le commande, c'est moi, ma sensibilité. Bien sûr, je pense à ma population, je pense aux hommes en général, mais je crois que c'est très facile de dire qu'on parle au nom d'un continent alors qu'on fait de l'art, alors qu'on n'est pas libre, alors que je crois que la liberté dans le choix des thèmes, dans le choix de direction d'acteurs, dans le choix de production font qu'il y aura une telle diversité que ça ne peut être que bénéfique à un cinéma longtemps resté dans le ghetto.
La voix d'Idrissa Ouédraogo, c'était en 89, c'était un entretien avec Serge Danet sur France Culture au moment de la sortie de Yaba. Idrissa Ouédraogo, c'était un homme, un cinéaste libre qui refusait qu'on l'enferme dans le ghetto du cinéma africain. Alors avec nous pour en parler aujourd'hui, Cheikh Doucouré, acteur et cinéaste de
Guinéen.
Bonjour.
Bonjour.
Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien, auteur entre autres de Timbuktu, qui avait été multi-césarisé en 2015. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Garcia. Donc vous êtes une figure éminente du festival d'Amiens. Vous avez été le directeur du festival pendant très très longtemps.
Et ayant, du fait du grand âge, bien connu, et Cheikh, et Abderrahmane, et bien sûr Idrissa, quand il était tout jeune avec ses tout premiers longs métrages.
Voilà, vous êtes Bonjour. Enfin connaisseur du cinéma africain. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Idrissa ?
C'était très clair, c'était en 1983, novembre 83, au moment du jumelage entre le Festival d'Amiens et le Festival de Ouaga. C'était une...
Donc le FESPACO.
Le FESPACO, pardon. Nous étions à l'époque en pleine révolution, le Burkina, et nous on était très émus de recevoir, c'était les premiers ministres de Thomas Sankara qui venait dans la ville, et c'était le ministre de l'Information, et avec, il y avait une délégation d'une vingtaine de Burkinabés, parmi eux, évidemment, Philippe Sawadogo qui allait être secrétaire général du FESPACO, Alimata Salon-Béré, il y avait également le jeune Gaston Cabouret qui n'avait pas encore achevé le montage de Wen Kuni, et Idrissa qui avait tourné, et qui était à l'époque étudiant dans une des écoles de cinéma qu'il a fréquenté en France. Il en a fréquenté plusieurs.
Mais il a fait l'IDEC, entre autres.
À Ouaga, il était venu à l'IDEC et il s'était libéré. Il était venu avec, c'était un jeune cinéaste qui avait fait que quelques courts-métrages dont, je crois que c'était cette année-là, Issa le Tisserand qu'on avait vu et qu'on avait montré, et c'était, ça a été le début d'une longue relation.
D'une grande amitié. Et vous, Abderrahmane Sissako, vous l'avez, enfin vous, votre premier court-métrage, donc c'était en 1989, sauf erreur de ma part. Donc c'était.
Oui, c'est ça.
Donc vous étiez un tout jeune cinéaste au moment de la sortie des premiers films d'Idrissa Ouédraogo.
Je pense que c'était plutôt 91 en fait, mon tout premier
le jeu parce que mon film de fin d'études, j'étais censé le tourner en 89, j'ai traîné un peu et je me rappelle c'était en 91 que je suis arrivé au FESPACO et j'ai rencontré le grand Idrissa.
C'était un peu un grand frère
Oui.
Pour vous, parce que j'ai vu que vous aviez fréquenté, je ne sais pas si c'était à la même période, mais l'école de cinéma de Moscou.
Pas l'école de cinéma de Moscou. Hein. Je pense qu'Idrissa avait commencé l'année de langue, je crois que c'était à Kiev à l'époque. Voilà. Donc il a juste fini l'année de langue. Finalement, il a quitté, il est venu à Paris pour faire une école de cinéma. C'est un grand frère, c'est, vous savez, comme Cheikh Doucouré. Hein, et le cinéma africain, c'est quand même une famille, qu'on le veut ou non. Hein, on fonctionne un peu comme ça. Il y a les aînés, il y a les grands frères, les petits frères. Et ceux qui sont venus un peu plus tard sont parfois, souvent, les jeunes frères. Et donc je me sentais le petit frère d'Idrissa et de tant d'autres.
Jean-Pierre Garcia.
On avait découvert le jeu qui était le premier court-métrage. Mais qui était censé se passer en Afrique, mais qui était tourné Ouzbékistan, je crois,
Turkménistan.
En Turkménistan. Alors c'était intéressant de voir cette image de l'Afrique reconstituée avec des dunes et du sable, mais ça avait la couleur de l'Afrique, ça avait l'odeur, mais c'était pas l'Afrique.
Mais c'était pas tourné en Afrique. Alors pour revenir à Idrissa Ouédraogo, c'est vrai que ses débuts ont été assez fulgurants, puisque 1986, c'est son premier long métrage. Il est directement sélectionné à Cannes, à la semaine de la critique. Hein, le choix, c'est l'histoire. Alors pour le dire vite, c'est une jeune villageoise qui a une grossesse un peu problématique et donc on doit amener à la ville en charrette. Ensuite, 89, donc Yaba, présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Un an plus tard, Tilaï est en compétition officielle et je le disais, obtient le grand prix du jury. Et je vous pose la question à tous les trois, mais peut-être en commençant par vous, Cheikh Doucouré, est-ce qu'il a contribué à placer le cinéma africain sur la carte de la cinéphilie internationale?
Absolument. Idrissa, il a fait des films divers. Quand on parle par Kini Adam, d'ailleurs, on était partis ensemble en Inde avec Idrissa, où il a présenté certains de ses films. Il a quand même énormément, oui, il a fait beaucoup pour le cinéma africain et a fait connaître le cinéma africain. Tila Yaba, ça a été des films de découverte. D'ailleurs, moi, j'ai un film que Idrissa, quand il dirigeait les enfants dans Yaba, et qui a été filmé par
Djibril Mambéty
Diop. Alors, ce qui fait que c'était vraiment toute une équipe, comme disait Abderrahman, c'est nos jeunes frères. Et Idrissa aussi était un peu plus jeune que moi parce que on s'est connus en 79 quand j'ai passé Bako, moi. À cette époque, au FESPACO, à l'Indé, toutes les discussions se faisaient à l'hôtel et je me souviens que quand j'ai présenté Bako à cette époque-là, il y a eu quand même pas mal de polémiques et c'est après que Idrissa est venu me voir, il m'a dit oui mais grand frère vraiment moi j'aime beaucoup ce que tu fais, moi aussi je suis étudiant en cinéma et après on s'est retrouvés et quand il m'a proposé de tourner dans son dernier film Cri du cœur aussi parce que comme je suis comédien et réalisateur en même temps et ça a été vraiment une très très grande amitié entre nous
et on aura l'occasion d'en parler d'en parler tout à l'heure mais Jean-Pierre Garcia Abderrahman Sissako, est-ce qu'il a contribué quand je disais qu'il a peut-être contribué à placer le cinéma africain sur la carte de la cinéphilie, je l'entendais d'une manière différente de Souleymane Cissé et de Sambane Ousmane, qui sont les deux grands cinéastes avec Médondo, enfin très connus à l'époque.
En fait, on découvre avec Idrissa une autre relation au cinéma que celle qui était posée par Souleymane Cissé. Cissé était en 87 en compétition à Cannes. C'était avec Yélène. Et Yélène, ça a été le premier film d'Afrique subsaharienne remarqué très fortement par la critique internationale présente au festival, le jury et bien sûr le public. Et Yélène a montré le lien qui pouvait être établi entre les traditions, les univers légendaires et l'histoire de l'Afrique avec le monde du cinéma.
Et une écriture très moderne en même temps.
Et le film est toujours d'une très grande modernité. Quand Idrissa est arrivé, en 2-3 titres, il s'est posé comme un cinéaste de niveau international, très vite. très vite, il est sorti du cadre africain pour aller vers... Alors, le choix, par exemple, son écriture cinématographique, dans le, et les thèmes de cette histoire, ce mouvement vers la ville et vers le sauvetage de cette jeune femme dont la grossesse est en difficulté, est bâti sur deux univers. Et on voit tout de suite deux univers. Un univers de société traditionnelle qui souffre de toute une série de maux que l'on connaît beaucoup et trop presque, et une Afrique qui a de l'eau, qui règle la question de la sécheresse, et une Afrique dans laquelle les personnages s'expriment, parlent d'amour, de joie de vivre, parlent aussi de... exprime, comme on l'évoquait tout à l'heure, une vraie sensualité.
Oui, il y a quelque chose de sensuel, on parlait de
sexualité.
Et de joyeux,
et de joyeux dans ces films.
Mais il me semble que c'est aussi important, sans doute, de dire que Idrissa Ouédraogo a commencé par le court-métrage documentaire.
Oui.
Et donc, c'est une école aussi de l'oreille et une école du regard.
Et de l'écoute.
Abderrahmane Cissako. Et ça se sent beaucoup dans ce
film. Oui, et puis aussi, c'est une école du début des choses aussi. Hein, avec, c'est plus facile... de faire du documentaire quand on n'a rien fait encore. Donc, je pense qu'il y a cette approche de commencer par le documentaire. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que notre cinéma s'est un peu appauvri d'absence de documentaire vraiment. Voilà, que la fiction a tout de suite été la chose à faire absolument. On n'était pas considéré vraiment comme un grand cinéaste si on ne faisait que du documentaire. Et voilà, donc je pense que ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme Idrissa commence par le documentaire, parce qu'aussi il a un regard politique sur les choses.
Puis il y a un regard aussi sur les gestes de l'artisanat.
Dans une salle qui se rend comme dans Poupée.
Et pour répondre un peu à la question si Idrissa a apporté avec son cinéma quelque chose au cinéma africain, il est indéniable, parce que on voit dans sa filmographie, et ça c'est très important de le noter, une progression, vraiment avec une précision. C'est le choix Yaba jusqu'à Tilaï, et tu disais, et c'est d'une finesse et d'une liberté de raconter les choses. Il y a la liberté chez Idrissa de raconter les choses, la finesse, la beauté des choses, et ça c'est quelque chose de très fort. Je crois qu'il a porté différemment. Mais Souleymane Cissé aussi, je ne pense pas que ça soit, bien sûr, c'est deux personnalités différentes, mais Souleymane, avant de faire Yélène, a fait des films les plus importants du cinéma africain aussi. Même s'ils sont différents dans la... Voilà. Même si c'est beaucoup plus la ville, Barra, c'est la ville.
Delmousseau, la jeune fille, absolument. Barra, Finier.
La ville.
Il y a toute une évolution, et y compris très politique, plus directement peut-être, chez Cissé que chez Idrissa.
Mais Idrissa a quelque chose d'un petit peu différent, dans la mesure où quand même, on parlait évidemment on pourrait aborder sa filmographie par deux biais. Le premier, ce serait le documentaire. Le deuxième, ce serait Chaplin. Et effectivement, il y a une tendresse, vous lisiez Jean-Pierre Garcia, il y a une humanité dans ses films qui va tout de suite accrocher le public, bien plus que dans les films de Souleymane Cissé, par exemple, qui tiennent sans doute plus le public à distance.
Ce qui est intéressant chez Idrissa, c'est que dès le début, je vous disais, je l'ai connu tout jeune et assez au niveau des courts-métrages et de son premier et deuxième long-métrage notamment, et il avait, je me souviens, une discussion devant le bunker du Grand Palais à Cannes. Et après, Yaba, et le succès commençait à s'installer vraiment avec le public à la quinzaine. Si ça marche, le public de directeur de salle et de cinéphile qu'il y a, tout de suite donne le ton de la carrière possible du film. Et c'est Yaba, l'un de ses films, qui a le plus marché et le mieux marché en termes de public.
Ouais. Alors justement, on va l'écouter. C'est toujours en 89. Et c'est à l'occasion de la sortie en salle en France de Yaba. Et il répond toujours aux questions de Serge Danet dans Radioscopie.
C'est Yélène de Cissé qui m'a amené à me poser des problèmes, des questions, plutôt sur qu'est-ce que nous devons faire. En fait, quel devrait être le sens de nos cinémas? Je parle des cinémas africains. Et Yélène était tellement bien reçue sur la forme que je me suis dit, mais les gens le regardent et les spectateurs, ils en sortent en se disant, ils ont vu un film, simplement, même s'ils ont des questions à se poser par rapport au fond, par rapport à des choses qu'ils ne comprennent pas, ils auront vu un film, peut-être difficile, mais un film. C'est-à-dire, on ne voyait plus Cissé en tant que noir ou africain, mais on le voyait d'abord en tant que Cissé. Et je me suis dit, mais c'est fantastique qu'on soit des créateurs tout court. Et je me suis dit, merci Cissé, je vais essayer de travailler dans des conditions objectives, de clarté dans l'image et dans le son similaire, et peut-être que ça peut m'apporter autre chose dans la démarche. Et c'est ainsi que j'ai essayé de faire ce film, en me disant aussi en même temps que c'est vrai que pendant de nombreuses années, nous nous sommes sentis toujours exploités, enfin, et c'est resté dans nos têtes, et la culpabilisation aussi de beaucoup de critiques et de beaucoup d'occidentaux ont fait que le cinéma africain ne bougeait pas du tout. Alors je me suis dit, mais c'est fantastique de se prendre pour un homme moderne et de dire qu'on fait du cinéma simplement et qu'on peut rencontrer les gens, même si on n'a pas les mêmes formes de culture, les mêmes manifestations extérieures de tous les grands sentiments humains, que le fond, il y a un essentiel, il y a une plateforme minimale sur laquelle tous les êtres peuvent se rencontrer.
Merci Cissé, dit Idrissa Ouédraogo. Je vous sentais très ému. Cheikh Doucouré.
Oui, absolument, parce que
on sent le genre d'homme qu'était aussi Idrissa Ouédraogo à travers sa voix et ce qu'il dit dans ce témoignage.
Et beaucoup d'humanisme, beaucoup d'hommes. Il aimait les êtres, pas seulement africains ou autres, mais Idrissa c'était ça.
Et c'est quel genre de personne?
Quel genre de personne? Idrissa c'était le petit frère, le grand frère. C'était un humaniste. Tout simplement, parce qu'Idrissa, il allait vers les gens, et il parlait avec les gens, il montrait les gens. Je crois que ce côté-là, même, il se prenait pas très très au sérieux dans ce qu'il faisait. C'était un homme qui était très très proche des êtres. Je crois que c'est ça qui fait que Idrissa, malgré son grand talent, parce que c'était un grand cinéaste, mais il reste quand même très proche des gens. Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer et de le connaître l'ont toujours gardé dans leur cœur. Et c'est ça, c'est émouvant de l'entendre parler encore. On était ensemble 3 semaines avant son décès, on était au Maroc. Et il me dit, bon ben, grand frère, il faut qu'on aille en Guinée parce que j'ai un projet, il faut que je rencontre le président guinéen et qu'on puisse faire ça ensemble parce que ça concerne toute l'Afrique. Et c'était ça, Idrissa.
Cheikh Doucouré, vous avez oui, Abderrahman ou Jean-Pierre, est-ce que vous aviez déjà vu Idrissa Ouédraogo sur un tournage? Comment il était? Parce que effectivement, j'ai lu des témoignages comme quoi il riait beaucoup, mais il pouvait être aussi capable de colère noire, quelqu'un d'assez entier, mais ça passait vite.
Et oui, parce que c'était ça, Idrissa. Bon, moi, j'ai tourné avec lui dans le cri du cœur, et c'est quelqu'un qui était avenant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il était coloreux. Quelquefois, il allait même jusqu'à la bagarre. Mais ça se terminait. Moi, il m'a raconté une histoire, une anecdote que je vais vous dire rapidement. Il était à Paris. Il a rencontré un jeune homme qui, bon, ça s'est pas très très bien passé en tournée. Il a dit, bon, moi, je te rentre dedans et tout ça. Et il sort, il a vu le type. Il était tellement costaud. Il a dit, bon, ben, on arrête. Et c'était ça, Idrissa. Il a dit, mais tu sais, parce que s'il m'avait donné un coup, et c'était ça, Idrissa. Il dit, bon, parce que j'avais pas justement jugé.
Moi, ce que j'entends aussi dans cette interview, en fait, cet entretien accordé par Idrissa Ouédraogo et Serge Danet, c'est aussi, on est à l'orée des années 90. Et ce qui me touche beaucoup, moi, dans ce témoignage, c'est qu'on a la sensation que tout est à inventer. Non, vous êtes d'accord avec moi, Abderrahman, Sissako, Jean-Pierre Garcia?
Tout.
On peut dire aussi que tout a été fait aussi. Hein. Je pense que oui, je crois bien sûr.
Mais il y a un espoir. On entend un espoir dans la voix de ce jeune homme qui commence à faire du cinéma.
Oui, ce qui est très très fort dans ce qu'on vient d'écouter chez Idrissa, c'est d'abord les mots qu'il adresse à Cissé, l'inspiration. Donc voilà, le fait de dire. Que Cissé lui a donné une sorte de confiance aussi en soi, parce que d'embraser une écriture ou de s'accrocher, voilà, il est modeste quand il parle, mais il avait déjà son écriture à lui, hein.
Oui,
mais c'est une façon de dire quand même, de se présenter, parce que on en a souvent souffert d'être considéré que africain. même si on est africain d'abord, ou comme dit Idrissa, on est cinéaste d'abord, après on est africain. C'est ça aussi. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, le fait que son cinéma, que le cinéma de Cissé est venu à un moment où ils ont été vus comme des cinéastes au cours et quelque chose de très très important.
Idrissa savait depuis le début, les tout débuts de sa carrière, je parlais avec lui au moment de Yaba, de ce qu'il voulait faire. En fait, il avait l'intention de s'attaquer à tous les genres, notamment en particulier aux films de genre. Il l'a fait dans un film comme Samba Traoré, par exemple, ou dans Kini et Adams aussi. Mais il a même réalisé un film à Lyon qui s'appelle Le Cri du Cœur. Dans lequel justement Cheikh a tourné. Et l'importance de ce film-là, il faut revisiter cette œuvre-là. Parce que, en fait, il montre bien qu'il est cinéaste africain. La thématique, elle est africaine. C'est celle d'Africains qui vivent en Europe d'emblée. Ce n'est pas des migrants. C'est une famille installée qui a des moyens, des revenus, un métier, etc. Qui a des enfants. Et il parle de la position, de la situation des enfants au regard de la culture africaine, de ce qui revient du village, et notamment une espèce de hantise, il est hanté par une espèce de personnage mythique, l'enfant. Mais ce qui est bien, c'est la manière dont il insère cela dans la ville de Lyon, dont il capte l'architecture, dont il capte les quartiers de cette ville et la manière dont elle fonctionne. Il capte l'histoire même de Lyon à travers ses quartiers. Et c'est lui, un étranger à la ville, qui le capte le mieux. En ce sens, il pose son côté universel en tant que cinéaste. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour rebondir sur la remarque « tout est possible », effectivement, c'est possible à un point. À l'époque, c'était relativement aisé pour lui de monter un film. Il y avait un mouvement de soutien et d'appui au cinéma d'Afrique assez réel de la part des Français notamment, mais de l'Union européenne également. Et là, on le voit devenir, avec sa société Les Films de la Plaine, producteur, enfin coproducteur du film Gimba, réalisé par Cheikh Oumar Sissoko, le Malien. Et les difficultés qu'ils ont eues...
Donc il a une volonté, en fait, d'être aussi producteur...
Et de produire des films panafricains. Parlant avec Idrissa en tant que producteur, et parlant avec Idrissa des difficultés de compréhension entre lui, réalisateur, mais aussi producteur, et avec les problématiques du réalisateur, il y avait les différences. Bon, ben là, voilà, ça coûte ce que coûte une société de production, ce que coûte le montage, etc. Et l'incompréhension qui pouvait presque surgir entre Cheikh Oumar et lui, et on voyait les problématiques différentes. Mais effectivement, tout était possible, il l'a fait. Bon, après ça, je ne crois pas qu'il soit parti dans beaucoup de coproductions, mais c'était important.
Alors, on va écouter un extrait de Yaba, donc deuxième long métrage d'Idrissa Ouédraogo. Alors, réalisateur, bien sûr, cette fois-ci. Je crois pas qu'à l'époque, il était déjà producteur au moment de Yaba. Donc, un village du Burkina Faso, une vieille dame, Sana, dont on dit qu'elle est une sorcière. L'enfant va s'en rapprocher, alors que les gens du village s'en méfient et lui jettent des pierres. Un extrait de Yaba d'Idrissa Ouédraogo. Alors c'est formidable parce que ce qu'on entend dans cet extrait, c'est la tendresse du film. Et effectivement, je pense que même les cinéphiles qui connaissaient un peu à l'époque, en 89, le cinéma africain, ils étaient habitués aux films un peu militants, hein, sans Ben Ousmane, Medondo, ils étaient habitués à Souleymane Cissé, donc des films quand même très formalistes. Et puis là, tout à coup, il y a un film qui vous raconte ce que c'est l'humanisme dans un petit village du Sahel. Et c'était quelque chose de très nouveau à l'époque, dans les salles. Abderrahmane Sissako. Jean-Pierre Garcia.
C'est intéressant parce que c'est éminemment africain et en même temps la problématique qu'il nous pose de cette femme désignée en tant que sorcière et rejetée, ça ramène cette histoire-là au niveau international. J'ai pensé automatiquement
à certains.
Oui, j'ai pensé au film américain de Joseph Losey. J'ai pensé aussi au petit garçon aux cheveux verts. J'ai pensé à ces films-là dans lesquels on voit un personnage désigné et aux sorcières de Salem quand on a vu dans notre jeunesse, qui était un film peut-être un peu moins grand que le garçon aux cheveux verts. Et on voit immédiatement comment il se positionne. Lui, en tant qu'individu, par rapport à une thématique et par rapport aussi à quelque chose de profondément humain. Et on le sent d'autant mieux quand on voit aussi le film, quand on voit Idrissa en train de filmer à travers le regard que Djibril Diop Mambéty avait posé dans Parlons Grand-mère sur le tournage de ce film-là. Et on voyait un peu le plan et puis on voyait ce qui était en arrière, ce qui était en retrait dans ce film-là et on sentait le personnage, on sentait la générosité de, très clairement, d'Idrissa Ouedraogo.
Mais visiblement, à l'époque de Yaba, ça lui avait été reproché par certains en Afrique, cette vision universelle dont parlait Elisabeth.
Oui, bien sûr, il y a toujours des... Bon, en fait, il faisait, et on le voyait déjà dans le choix aussi, il dépassait les stéréotypes. Il dépassait l'image convenue de l'Afrique. Certains voulaient une Afrique misérable pour laquelle il fallait se battre ou avec aux côtés de laquelle il fallait se battre ou à la place d'eux. Ça posait déjà beaucoup de problématiques. Et dans Yaba, c'est autrement. Il n'y a pas de méchants blancs ou de méchants autres qui sont là. C'est la réalité, elle est là. C'est la vie dans le village. C'est aussi les traditions qui peuvent poser des exclusions. Pourquoi pas? Et il affirmait l'identité de son peuple et y poser son histoire. Et ça, c'est courageux. Et c'est ça aussi qu'on retrouve dans nombre des films suivants. Il y a toujours un moment dans lequel les êtres, soit sont faibles, mais dans lesquels les êtres sont aussi, ils sont attentifs, il y a un sourire. Il y a le sourire, il y a toujours, souvent, le sourire d'une grand-mère, le rire d'un enfant. Et ça, c'est assez symptomatique de l'ensemble de l'œuvre d'Idrissa, si je peux.
Et ce qui est très beau, c'est aussi, pour poursuivre ce que vous dites, Jean-Pierre, c'est que les êtres se transforment. Oui. C'est qu'il y a une possibilité de transformation de l'être. Ce petit garçon, au début, il lui jette quand même des pierres à la sorcière, et puis on va voir son évolution. Et puis, une question, alors que je vous pose à tous les trois, est-ce qu'il y a une forme de féminisme dans l'œuvre d'Idrissa Ouedraogo? Parce qu'on parlait tout à l'heure du choix. Là, dans Yaba, il y a quand même deux très beaux personnages féminins, parce qu'il y a la grand-mère, mais il y a aussi la petite fille qui va, elle aussi, s'approcher de cette grand-mère sorcière qui est à l'écart du village. Dans Samba Traoré, évidemment, il y a un magnifique personnage
de
femme. Et dans Tilaï. Donc, je vous repose la question à tous les trois.
Je pense que le mot féminisme va le réduire à quelque chose aussi. C'est pas ça. Je pense que quand on crée, quand on fait un film et qu'on s'intéresse à son peuple, à ce qu'on a vécu, quand on veut parler des choses, quand on a une sensibilité et qu'on veut parler de la vie, forcément, la vie d'une femme prend une place dans l'histoire. Ou d'un enfant, voilà, en cela.
Il crée des personnages de femmes. Alors, sans dire
parce qu'il que son regard, le regard qu'il pose sur la vie, dans cette vie-là, il y a des personnages, il y a des femmes. Donc, il s'intéresse à ça, il défend quelque chose. Et en tant que citoyen, en tant qu'artiste, voilà. On peut dire féminisme, mais bon, j'ai pas.
On peut dire aussi qu'il y a des beaux personnages de femmes dans les livres d'Idrissa Ouedraogo.
Voilà, il y a de très beaux personnages de femmes.
Oui, absolument.
Cheikh Doukou Ouress.
Et de là, parce que quand on voit l'histoire d'Idrissa lui-même, c'était quelqu'un qui était très proche de sa mère. Et par rapport à ça, je crois qu'il a eu aussi cette amitié, cet amour pour les femmes. Par rapport à sa mère, c'est pour ça qu'il a créé de si beaux rôles de femmes, mais féministe, non, mais...
Féministe, on ne sait pas.
Voilà.
Alors, je vous propose de l'écouter, et c'était en 2001, au micro de Catherine Ruel, et il revenait, en fait, puisque il avait des acteurs non professionnels, en tout cas pour ses premiers films, et donc il parle de la grand-mère, de cette véritable grand-mère, voilà, qui jouait la grand-mère dans Yaba.
Je choisissais les acteurs une semaine avant, deux jours avant, il n'y avait pas de préparation. C'est vrai qu'elle avait un beau visage, mais c'est vrai que ce que disait Jean dans le documentaire, elle ne pouvait pas aligner une ou deux phrases. Mais elle était confiante parce qu'on avait un grand ami aussi qui était avec nous là-bas, qui faisait un film sur le film qui s'appelle Djibril Mambéty Diop, qui est décédé. Et elle s'entendait bien avec Djibril parce que lui, il aime toucher, il est très affectif. Et donc, il a donné confiance à la grand-mère. Mais nous, sur le plan du cinéma, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on avait quand même des rails, on faisait des travelling. Et quand elle marchait, qu'on fait un travelling, ça veut dire que nous, on s'éloigne quand elle s'avance. Et à un moment donné, je ne sais pas, comme elle est rigide, vraiment, son pied s'est entremêlé dans les rails. Et depuis ce jour, si on fait un travelling, elle refuse de marcher. Tu vois, elle refuse de marcher. Et elle avait remarqué, mais elle était en même temps intelligente, elle était dans son univers. Elle avait remarqué qu'on faisait pour la sécurité, même si une prise était bonne, on faisait 2-3. Et la pauvre dame, au bout d'une semaine de tournage, elle ne jouait vraiment que pour la 4e prise. Et nous, on lui dit, mais merde, qu'est-ce que tu fais? Elle dit que c'est que la 4e qui est bonne alors. Donc elle avait déjà compris, à sa façon, qu'elle ne devait pas se fatiguer pour les autres prises.
Voilà, un extrait, c'était Idrissa Ouedraogo, un extrait d'une interview réalisée par Catherine Ruel. Et c'est là qu'on voit quand même l'exploit. C'était une forme de génie, parce qu'il avait assez peu de moyens. Ça, on le voit très bien, hein, quand on revoit Yaba ou ses premiers films. Des acteurs non professionnel, et en même temps, il a un sens du cadre, il a un sens du découpage, il a un sens de la narration absolument extraordinaire. Jean-Pierre Garcia.
Oui, je repense à cela. C'est pour ça qu'en évoquant la question du féminisme d'Idrissa, c'est un peu parler d'une situation d'hier avec des mots d'aujourd'hui. Et dans le contexte de l'époque, lui, ce qui l'intéressait, c'était la place de l'un et de l'autre dans la société. Moi, je dirais plutôt que le regard qu'il portait sur la femme l'intégrait totalement dans un couple, dans la notion de couple d'amour. Ils s'aiment, doivent pouvoir s'aimer, et on peut pas accepter que le vieux père se paye une 4e femme et prive et empêche une histoire d'amour de naître. C'est le thème de
Tilaille.
C'est le thème de Tilaille, très clairement. À partir de là, le personnage, alors le travail sur les comédiens est aussi le résultat de ce regard. Ce n'est pas, on pourrait dire, il prend sa comédienne 2 jours avant. Non, c'est quelque chose de... C'est différent, c'est parce qu'il avait cette image. Et effectivement, elle était très raide, la comédienne, quand on la voit, quand on revoit bien le film, quand elle avançait. Mais ça lui donnait un port, j'allais dire, c'était presque une petite altesse locale, et c'était un port presque de reine, quoi. Elle avait sa dignité, elle était ce qu'elle était, et elle dit aux autres, parlez toujours. Moi, je suis comme ça.
Et c'est comme une statue, hein, qui sort de la brousse, oui. Hein, dans le film.
C'était pas sa statue du commandeur, mais c'était c'était l'image, comme l'a dit très très justement Cheikh Doucouré tout à l'heure, c'est l'image de sa propre mère. C'était la représentation de l'image de sa mère qu'Idrissa avait en lui. C'était une belle image. C'était une belle image.
Mais alors après Yaba et surtout après Tilaille, Idrissa Ouedraogo, il est devenu une sorte d'emblème du cinéma africain. Est-ce que je me demandais si sa filmographie, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais est-ce que sa filmographie, elle ne reflète pas aussi un moment de l'histoire du cinéma africain, c'est-à-dire un moment où effectivement on se dit tiens, mais ces films, le public les aime, enfin ces films sont des succès, des petits succès certes, mais des succès quand même en salle, la critique est avec lui et on se dit là, ça va marcher.
Moi j'étais surpris d'entendre le chiffre 40 films, hein, et bon, c'est fait à un moment aussi où Idrissa quitte la France, s'installe au Burkina, et c'est l'avènement de la vidéo aussi, en ce moment-là, où on pouvait tourner vite, facilement, beaucoup de choses, et donc son énergie, il a mis son énergie au service du cinéma, il a fait énormément de choses, moi je les ai pas vus ces films-là, mais il a travaillé...
Il avait fait aussi des séries.
Des séries, oui, tout à fait.
Kadijoli,
c'est lui qui a lancé absolument Kadijoli, et ça c'était... Moi je voulais revenir sur quelque chose... Quand vous demandez qu'est-ce qui caractérisait Idrissa, dans son interview qu'on vient d'écouter, encore une fois, il évoque Djibril Diop Mambéty. Je pense que le caractère le plus fort chez Idrissa, c'est sa générosité. J'ai rarement rencontré un homme aussi généreux que Idrissa. Voilà, il avait ça en lui. Idrissa, voilà, il met sa main dans sa poche, il sort. Parfois, bon, nous, on était plus jeunes, il te voit, il pense que t'as pas d'argent, il sort à l'époque 200 francs, il dit « Doro, petit frère, prends ça », et voilà, tu es presque désemparé, donc il donnait
beaucoup. Il a remis sur les rails, et t'as totalement raison, il a remis sur les rails Djibril Diop, qui était, moi j'ai connu Djibril dans sa longue traversée du désert.
En lui proposant de travailler, en l'accueillant.
Il lui a dit, viens, t'as le matériel, t'as ça. Il a pris en charge le film. Et il lui a dit, tu fais ce que tu veux. Il lui a pas dit, fais un film sur le tournage et ça sera utile. Non, il lui a dit, fais un film. L'histoire t'intéresse, elle te plaît, tu viens et tu filmes ce que tu veux. Et tu fais ça comme tu veux. Et Parlons grand-mère, c'est un moyen métrage. C'est pas un petit film sur le tournage d'un quart d'heure à utiliser. Non, c'est un vrai film.
C'est un vrai film et pas un bonus.
C'est un vrai film. Connaissant les difficultés de Djibril Diop à l'époque, il avait pas encore. Il y avait beaucoup de choses. Il fallait. Et on l'a redécouvert. Beaucoup de gens depuis Tuki Buki, il y avait plus de films et pas des cours ni rien. 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 Et ils ont redécouvert totalement Djibril, et ça avait fait un choc. On dit, oui, il a du talent, l'ancien, parce que c'était un ancien déjà, pour nombre d'entre nous.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur un aspect de la personnalité d'Idrissa Ouédraogo, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Garcia. C'était son appétit extraordinaire, son envie de toucher à tous les gens. Ouais. Vous le disiez, Caddy Joly, la série, faire des films noirs, faire des films qui sont des fables, mais avec une dimension burlesque. Et là, on va écouter un extrait de Samba Traoré, donc film de 1993. Il obtient l'Ours d'argent au Festival de Berlin. C'est un homme, un braqueur de... Ça pourrait être un film noir américain. Ouais. Un homme qui a braqué une banque, rentre au village avec son magot et va essayer de refaire sa vie. Mais malheureusement, le passé, bien évidemment, va remettre sa griffe, va poser sa griffe sur lui.
Soma. Besra. Et Warbani Bebomi.
Jufle, bei kabule, ibani kumrola.
Samba, anya kabule kasi samba.
Journal freda bien, journal. Faso wal jokem be bola, ni aro do fama kumrola ja. Samba.
Un extrait de Samba Traoré d'Idrissa Ouédraogo, donc Ours d'argent, je le disais, au Festival de Berlin. Et alors là, c'est extraordinaire parce que ça pourrait être un film de tourneur, quoi. Ça pourrait être la griffe du passé, qui est un grand cinéphile, Jean-Pierre Garcia. Non, mais il y a ce que je veux dire plus sérieusement, c'est qu'il y a une espèce d'envie de travailler tous les genres, et certainement avec l'idée, bien évidemment, d'avoir des vrais succès en salle, c'est-à-dire de ne pas rester cantonné aux cinémathèques.
Et dépasser même son propre pays, puisque après Samba Traoré, si ma mémoire est bonne, il a tourné Kini et Adams en Afrique du Sud, avec des comédiens, alors qu'il ne parlait pas couramment l'anglais.
Alors,
avec
c'est des comédiens qui ne parlaient pas un mot de français. D'Afrique de l'Ouest va tourner au Zimbabwe en anglais.
Oui. Et je pensais à des parallèles entre des carrières de gens qui tournent dans leur pays et dans plusieurs autres et qui vont tourner fort loin de chez eux. D'autres cinéastes, ça arrive, n'est-ce pas, Abderrahmane?
Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et c'est là aussi, dès le début, il dit ça quand il dit « je vais être considéré comme un cinéaste tout court, donc je ne veux pas être cantonné, voilà, une identité que africaine, donc je suis un artiste, donc je peux partir ailleurs ». Raconter les choses d'ailleurs, je crois que c'est...
Mais de là d'ailleurs, je me dis, ton film Octobre, qui fait aussi que tu n'es pas resté cinéaste. Quand on voit ce film, on ne sait même pas si ça a été fait par un Africain. Parce qu'on découvre l'Union soviétique et tout ça, et avec la difficulté de dire qu'on travaille souvent aussi, ou quelquefois, avec des comédiens non professionnels. Mais je crois que c'est le regard même du réalisateur, du créateur, qui fait qu'on arrive à harmoniser les choses. Et Idrissa, c'était ça. Et justement, Abderrahmane, moi, j'ai découvert ça dans ton film Octobre, sans parler aussi des autres.
Mais est-ce qu'on sait si Idrissa Ouédraogo, là, Samba Traoré, c'est un film noir, hein. Est-ce qu'on sait si ses références, du coup, il avait beaucoup vu quand même des films noirs américains? Parce que là, après, on dit qu'il est parti tourner en Afrique du Sud.
On entend souvent que ses grandes références étaient plutôt japonaises, en fait.
Oui, oui, lui aussi.
Est-ce que c'est vrai?
Mais il est pas... Moi, je ne crois pas. Moi, je le mets pas. Il y a d'autres cinéastes dont on pourrait dire le nom, mais c'est pas l'objet. Sinon, on va se mettre à parler de tout le monde. Mais pour revenir sur Idrissa, il aimait les films d'action entre guillemets.
Et d'ailleurs, son écriture, elle change beaucoup dans Samba Traoré.
Et quand on parle de films noirs, c'est pas de films noirs américains, c'est de films noirs de polar, de films comme ça. Et il voulait aussi, c'était peut-être aussi pour lui une manière de dire, ben l'Afrique, elle est aussi dans la modernité. On a aussi des hold-up ou des gens qui rêvent de hold-up.
On a droit à la vitesse.
Et on rêve de ces hold-up en référence aussi, d'abord et avant tout, en référence au cinéma. Au cinéma qui était donné à voir.
Le cinéma de son enfance aussi.
Et au cinéma de son enfance.
C'était quoi le cinéma de son enfance?
Mais c'est ça qui l'a nourri, probablement. Chèque peut en parler. Parce que
les films d'action.
Il y avait les films d'action, Eddie Constantine. Il y avait aussi.
Le western.
Le western, beaucoup de western. C'était ça, notre époque. Nous, on a découvert le cinéma en Afrique par ce cinéma-là. Et puis, c'est resté à nous. D'ailleurs, Idrissa, dans Samba Traoré, il a une course de cheval, il aimait beaucoup ça, et ça lui rappelait justement les westerns qu'il avait vus. Et Idrissa, il était très moderne en même temps qu'il était très villageois, parce qu'il connaissait très bien le village, il savait comment ça se passait, mais en même temps, il était très moderne. Je crois que c'est ça qui fait la force de Idrissa.
Et dans Tilaï aussi, il y a des paysages comme ça. Le personnage filmé de loin dans ce paysage désertique, on se croirait dans un western.
Absolument. Oui,
tout à fait.
Et est-ce que vous voyez, c'est peut-être une question un peu anecdotique, mais est-ce que vous voyez quelque chose de typiquement burkinabé dans les films d'Idrissa Ouédraogo, Abderrahmane?
Je pense que c'est des questions difficiles, en fait. Mais c'est qui Burkinabé est malien aussi.
Oui,
Voilà. Côte d'Ivoire.
C'est une culture.
Oui,
hein,
je pense que non.
Ça se retrouve. Mais c'est vrai que quand on va à Ouaga, on dit « Ah, ben le Burkinabé, il reçoit très bien et tout ça. » Mais au Sénégal, on parle de la Teranga aussi. Moi, je crois que c'est commun à l'Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest.
En réécoutant des interviews d'Idrissa Ouédraogo, j'étais vraiment frappée par le fait qu'on a le sentiment d'un poids énorme sur lui. Et on lui pose toujours des questions sur le cinéma africain, les problèmes de production, le manque d'argent. Et du coup, il y répond, et c'est le sens de ma question, c'est-à-dire est-ce que c'est lui qui initiait ce type de questions ou est-ce qu'il se coulait dans le moule? Mais il était une sorte d'ambassadeur, en fait,
oui,
du cinéma africain.
Il a certainement ceux qui l'ont mieux connu que moi. Et Idrissa, une enfance d'étudiant engagé. C'est un homme politique. Hein. C'est un politique donc, qui dit les choses, qui a voulu, enfin, à chaque fois, dans une tribune, que ce soit au Facebook ou ailleurs, il parlait du cinéma africain avec une force réelle. Hein. Pour lui, c'est un combat. Et ça, c'est important, et ça l'a accompagné tout le temps. Et il y a des interviews de lui où il dénonce très souvent le manque d'intérêt pour le cinéma de nos politiques, sur notre cinéma.
Bah oui,
il dit ça, on a toujours parlé. Et c'est...
Des hommes politiques, des États africains.
C'est ça.
Absolument.
Et il n'a jamais eu envie d'avoir des fonctions politiques. Enfin, il avait repris le parc de salle du Burkina Faso, je crois.
Il a eu des fonctions. Il a été conseiller du président de la République. Et je crois que ça a été un petit peu, pour moi, le début de la fin de sa carrière. L'autre raison était très simple, c'est que quand il a fait Kidney et Adams, Polygram s'est intéressé à son œuvre et à ses projets. Il avait un très beau projet. Presque un peu comme Samben, son Samori Touré à lui, c'était un film sur l'arrivée de la colonne voulée chanoine de différents pays, dont le Burkina. Et quand il avait son scénario, son projet, il allait le faire avec un budget classique, disons, de films africains de l'époque. Ça pouvait être dans les 500-600 000 euros. Il avait à peu près déjà pratiquement réuni tout ce dont il avait besoin. Et Polygram surgit. Je parle avec Idrissa et il me dit « Tu te rends compte ? Rien que pour le service des artificiers, les explosions qui veulent qu'il y ait dans le film, c'est le budget d'un de mes films précédents. Ça s'est jamais fait, tout simplement parce que Polygram a été absorbé par une autre boîte américaine et que toute leur, la partie cinéma que développait Polygram à l'époque est passée à l'as. Et après, il a tourné ce film avec un budget très, très faible, beaucoup plus faible même, et en numérique. Et il a mis du temps à sortir. Et c'est là qu'il est devenu conseiller du président, qu'il est intervenu. Il devait régler toute une série de projets de développement du cinéma au Burkina avec des plans européens, avec des fonds européens, et ça ne s'est jamais fait. Et il a géré ces salles de cinéma et
mais c'était pas un homme d'affaires. Il était meilleur cinéaste qu'homme d'affaires, dira-t-on. Et
absolument.
Parce qu'il était trop généreux.
Absolument. Absolument.
Ça était tout le temps en cours d'argent, parce que quand il gagnait, il donnait, comme a dit Abderrahmane, et c'était ça Idrissa, c'était pas un homme d'affaires.
C'était le jeune frère est devenu le grand frère, et le grand frère de beaucoup de gens, il fallait qu'il aide. Voilà. On n'a pas idée de la manière dont fonctionnent les relations avec la famille, et puis je t'aide et tu m'aides et tu me dois ça, et c'est normal, et puis ton père, ta grand-mère, il y a toute l'histoire. On le sait pas dans le menu, mais dans les fêtes, on arrive à des situations comme ça. Mais moi, je voudrais reparler d'un petit film. Peut-être que vous y avez pensé, mais le fameux... Il a fait beaucoup de courts-métrages, de docu, de fiction, de séries. Il a fait beaucoup de films, des séries sur Ouaga, par exemple, le film qu'il appelait Ouaga de Roux, etc. Mais le film important, c'est le film sur la manière dont le mois de septembre 2001...
Le 11 septembre, c'était un film collectif avec Ken Loach
et
Mamoura.
Et ce film qu'il a fait sur comment à Ouaga...
Un petit
Ouaga
garçon
part en chasse de Ben Laden. C'était extraordinaire. Et c'était une très bonne idée que de proposer un scénario comme ça. C'était très fin et très subtil, parce qu'il dit, bah vous avez cette angoisse, cette inquiétude, les deux tours jumelles qui disparaissent avec l'avion. C'est grave, mais nous à Ouaga, on a d'autres problèmes. Mais l'idée de récupérer un peu d'argent, la manière dont c'est vu, si on trouvait Ben Laden chez nous, chance. Et comment ça fonctionne et comment ça s'installe, on voit aussi le sens de l'humour qui est très, très, beaucoup plus grand qu'on le pense chez Idrissa. Il a jamais fait de comédie, mais il a un vrai sens de l'humour, comédie sauf Kadi Joly, mais il a un vrai sens de l'humour qui est superbe.
Merci messieurs, merci à tous les trois, Cheikh Doucouré, Jean-Pierre Garcia, Abderrahmane Sissako. Je crois que vous avez un projet, votre nouveau film se passera en Chine.
Oui.
Je suis bien informé.
Oui.
Merci à tous les trois.
Si tout va bien, oui.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré. À la prise de son, Bertrand Éclair, et à la réalisation, Fanny Renard.
Un grand merci à toutes les équipes du Festival d'Amiens qui nous ont aidés à monter cette émission. Un grand merci en particulier à Dominique Racle et à Anouchka Deandrade. Le festival se termine ce samedi avec la projection du film primé. Et nous plions bagages pour rentrer à Paris, préparer l'émission de la semaine prochaine. On parlera des séries françaises à l'occasion de la diffusion d'Ad Vitam, une série signée Thomas Caillé. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde. Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.